quartier maître de la rue.
Ma politisation, elle a commencé au début de la décennie 60, en 1960, et j'avais 15 ans. Et elle est passée du sud de la France, Cannes, où je suis née, pour des raisons politiques, que je vais expliquer, à Paris ensuite, où je suis venue faire mes études. Pourquoi pour des raisons politiques? Parce que mes parents, comme mes grands-parents juifs, sont descendus, comme beaucoup de juifs descendus, comme on disait, dans le sud de la France, pour fuir l'occupation, effectivement. J'ai adhéré quand j'avais 15 ans avec mon frère Jean-Jacques, qui avait un an de plus que moi, à toutes sortes de mouvements de jeunesse à Cannes, dont les jeunesses communistes et le Parti communiste. J'étais dans un lycée qui était avant de filles, même à cette époque-là, c'était la mixité. Et donc un des premiers combats politiques qu'on a menés ensemble en direction des députés communistes du Sud, des Alpes-Maritimes, c'était la mixité des jeunesses communistes. Les jeunes filles de France étaient séparées des jeunes garçons. Pour des raisons pas du tout progressistes, c'est-à-dire contrairement à ce qui ensuite est le mouvement autonome des femmes, là c'était au contraire conservateur, et pour que les parents acceptent que les jeunes filles sortent. Bon, mais nous on percevait donc la politique, la politisation, la formation communiste comme devant être mixte. C'était donc une des premières batailles. Mes parents n'ont pas d'impact direct dans notre politisation. Ils n'étaient pas militants, mais antifascistes, antisionistes et petits commerçants, avec beaucoup de difficultés financières. J'ai donc dû demander une bourse pour faire des études quand je suis montée à Paris pour passer mon bac, donc en 62. Et 63. Alors j'ai commencé à avoir des liens politiques avec, comment dire, ce qui se passait à l'intérieur du mouvement communiste français, sans connaître du tout ce qui se passait au niveau de l'UEC, mais par l'AJC à Cannes, parce que nous étions avec mon frère dans une dynamique très autonome et très militante, qui en elle-même était suspecte pour, disons, la bureaucratie du PC. Et on avait pris contact, avant que je monte à Paris, comme on dit, avec un courant à l'intérieur du Parti communiste qui s'appelait Unir, et qui était sur des bases très minimalistes, c'est-à-dire simplement sur les questions de démocratie à l'intérieur du PC. Et personnellement, donc, j'avais écrit et demandé qu'il y ait des réunions, parce que je voyais mal simplement des échanges clandestins et de lettres. Et ils ont constitué Unir Jeunesse avec des pseudonymes. Et dès que je suis arrivée à Paris, il y a eu la première réunion et la dernière d'Unir Jeunesse. J'avais comme pseudonyme J1, on était J1, J2, etc. Et dans cette première réunion, c'est là que j'ai rencontré, sans savoir qui il était, puisque c'était sous pseudonyme, Alain Krivine. Et c'est là qu'il y a eu, donc avant même que je passe mon bac, l'année où je le passais, une première présentation dans cette réunion qui était interne au Parti communiste, en fait, une présentation des conflits qu'il y avait dans l'UEC. Et c'est Alain qui a fait cette présentation avec les différents courants italiens, gauche, etc., que je découvrais complètement à ce moment-là. Quand j'ai passé mon bac, je me suis précipitée dans les locaux donc, où se réunissaient les étudiants communistes à Clarté. Et là, j'ai repéré, il y avait les différents courants qui étaient là, dont Alain Krivine, qui m'a dit de ne pas mettre en évidence le fait qu'on se connaissait. Alors que les uns et les autres essayaient plutôt de me draguer ou de me recruter donc de cette façon-là par rapport à ce qui était en train de se passer à Cannes, c'est-à-dire une dissidence de la jeunesse communiste animée par mon frère qui a fait le premier cercle de jeunesse communiste révolutionnaire. Quand on a su que je venais de Cannes, disons que les différents courants ont essayé de me recruter, mais Alain m'a amené donc en voiture au quartier latin, et ce qu'il a fait, c'est un topo sur le stalinisme, et c'était formidable. Donc il m'a donné une clé d'interprétation de quelque chose qui était pour moi très très important. Je me suis radicalisée, on était encore dans le siècle où le souffle d'octobre était très important dans la politisation. Pour moi, dans la révolution d'octobre, j'y suis entrée par la tête, les tripes et le cœur, mais la découverte de sa trahison, du bureaucratisme, les conflits dans le PC, etc., était un vrai traumatisme. Et Alain, sans dire qu'il était trotskiste, je ne savais pas ce que signifiait ce mot, donc commencé à me présenter ce qui était l'orientation de la gauche à l'intérieur de l'UEC, avec une interprétation du stalinisme basée sur un contexte historique matériel, matérialiste, d'une dégénérescence bureaucratique dans un contexte particulier. Et cette interprétation, qui s'est ensuite évidemment prolongée par des lectures, notamment de la Révolution trahie de Trotsky, etc., m'a beaucoup marquée. Alors, en tant qu'étudiante boursière, je ne savais pas trop quoi faire au démarrage, et donc j'ai fait une propédeutique littéraire dans un Nanterre qui se construisait, qui sortait donc avec des bidonvilles tout autour encore, etc. Très vite, j'ai été influencée par les conseils que me prodiguait notamment Hubert Krivine, qui à l'intérieur donc de la gauche qui militait dans l'UEC avec Alain, en quelque sorte me parrainait pour me recruter à la 4e internationale et me conseillait aussi sur quoi faire et quoi étudier. Il me disait on a besoin d'économistes, donc j'ai bifurqué vers Assas. Une bifurcation importante de ma politisation en fonction des discussions, notamment avec Alain et Hubert Krivine, ça a été mon adhésion à la 4e internationale. Ils m'ont recrutée. Je ne connaissais pas cette internationale qui se protégeait, y compris des agressions du PCF au niveau de la France, dans les meetings publics. Et donc ça a été un facteur de politisation, de formation. C'est une organisation toute petite. Et d'implication dans les réseaux militants sur la question du Vietnam et le comité Vietnam national. Et on avait des débats, parce qu'on avait des camarades aux États-Unis qui s'impliquaient dans le mouvement anti-guerre, et on avait des débats d'orientation où on se distinguait des orientations prônées par le Parti communiste ou la JC, donc de paix au Vietnam. Et comme les courants d'ailleurs maoïstes, nous nous engagions dans une lutte de soutien pour la victoire, mais avec la compréhension qu'aux États-Unis, c'était très très important que nos camarades, donc trotskistes, s'impliquent dans un mouvement très très large, non pas sur un mot d'ordre aussi politique de victoire pour les combattants vietnamiens, mais de retrait des GIs. Donc là, évidemment, aux États-Unis, c'était décisif. Et j'ai participé à toutes les manifestations qu'on a pu avoir et les interventions sur cette question du Vietnam. Et j'ai participé notamment à cette manifestation du 20 mars contre un siège de l'American Express, dans laquelle des camarades, des jeunesses communistes révolutionnaires qui s'étaient constituées en étant une dissidence donc de l'UEC, ont été arrêtés, notamment Xavier Langlade. Donc j'étais à la fois impliquée dans un travail étudiant sur Assas et politique, dans un travail des jeunesses communistes révolutionnaires dont je faisais partie depuis le début, après l'exclusion des membres du secteur lettres de l'UEC, et dans un travail Vietnam, mais aussi à l'intérieur de l'international, dans une politisation et formation qui, dès ces années-là, me tournait également vers ce qui se passait en Europe de l'Est. Donc, j'ai commencé aussi à travailler sur ces questions-là. Et donc, en 68, il y a la superposition, en fait, de tous ces facteurs de politisation et réseaux de militantisme et de politisation. Après l'arrestation de plusieurs camarades à la suite de la manifestation du 20 mai, le lancement du mouvement du 22 mars, après les interdits et les arrestations aussi au niveau de l'université de Nanterre, il y a eu le meeting à la Sorbonne et j'étais dans ce meeting et j'ai fait partie le 3 mai des quelques centaines d'étudiants qui étaient embarqués dans les fourgons policiers. Et pour la première fois, donc, je me retrouvais dans cette situation, mais avec à l'extérieur cette atmosphère extraordinaire de camarades qui lançaient des slogans « Libérez nos camarades ». J'étais dans les fourgons, alors je n'étais pas assez importante pour faire partie de ceux qui restaient, qui ont été emprisonnés. On a été très vite libérés. Mais c'était une première confrontation aussi, en dehors des manifestations sur le Vietnam, avec la répression policière à l'intérieur des universités. Et l'autre confrontation, ça a été une confrontation aussi avec l'extrême droite et sur Assas. On avait formé un comité d'action et l'extrême droite d'Assas essayait de constituer quelque chose qui se présentait avec un nouveau nom, qui allait devenir le GUD, le groupe Union Droit d'ailleurs, qui s'est constitué en décembre 68 sur Assas. Donc un peu plus tôt dans l'année, ils essayaient de se présenter sous un jour très démocratique et en évitant d'afficher un profil fasciste. Et ils avaient convoqué un grand meeting, donc dans la foulée des réunions après les événements de la Sorbonne, un grand meeting à Assas, dans l'amphithéâtre 1000. Et j'avais été déléguée par le comité d'action qui s'était réuni avant au Panthéon pour intervenir dans ce meeting, avec quelques camarades derrière, mais pour dénoncer le fait que c'était animé par des militants fascistes. Qui allait d'ailleurs constituer effectivement aussi l'ordre nouveau, etc., dans les mois suivants. Et alors, au bout de 2 minutes d'intervention, il y avait au foyer, au bout de 4 minutes, au bûcher. Et c'était effectivement une phase dans laquelle on a commencé à se structurer aussi sur Assas, avec comité de grève contre les organisations corporatistes, et tous les enjeux de ce qu'était l'autonomie de l'université, mais aussi le contenu des enseignements en économie, et aussi le problème de la sélection se posait, donc à Assas comme ailleurs. Donc à l'intérieur d'Assas, qui était en décalage par rapport aux universités, notamment de lettres, qui étaient beaucoup plus radicales, il y a eu un mouvement aussi de politisation, et qui a rejoint, y compris la grève, avec comité de grève et des batailles politiques qu'il y avait dans d'autres universités, mais qui étaient aussi spécifiques à une université dans laquelle droit et économie étaient mêlés et où on voulait avoir un contrôle à la fois sur les contenus de l'université et de l'enseignement d'économie et aussi toute une série de discussions sur les problèmes de sélection et contre cette sélection, mais également un problème d'autonomie de la gestion ou contre ceux qui avaient une vision qui va rester longtemps, une vision hiérarchique et élitiste de la gestion de l'université, nous défendions avec le comité de grève une vision égalitaire, égalitaire dans laquelle les étudiants et les enseignants et le personnel devaient avoir une parité de représentation, mais aussi où tous les enseignants étaient sur le même plan et il y avait une bonne partie des enseignants d'économie à l'époque, et j'allais le devenir moi-même bientôt, qui était assistant et traité comme la chienlit par rapport à ceux qui étaient professeurs ou maîtres de conférences. Donc il y avait des clivages politiques et sociaux qui traversaient ces batailles-là, aussi bien sur le plan des contenus et de la formation que sur le plan de la gestion et des liens avec ce qui se passait autour de nous, c'est-à-dire l'insertion dans les comités interfacultés et dans la mobilisation d'ensemble. Alors, de même que j'étais impliquée dans la mobilisation aussi de la Sorbonne et donc dans la radicalisation interfac, j'ai été impliquée évidemment à tous les titres militants dans lesquels j'étais engagée, hein, dans la mobilisation de la rue Gay-Lussac et de la nuit dite des barricades. La jeunesse communiste révolutionnaire et la quatrième internationale à laquelle j'adhérais considéraient de façon extrêmement positive et ouverte l'implication dans le mouvement étudiant, qui était considéré par d'autres ailes de la gauche radicale comme des courants petits bourgeois dont il fallait se désintéresser par rapport à la priorité simplement ouvrière. Pour nous, il y avait une vraie, dans notre jargon de l'époque, dialectique des secteurs d'intervention, ou un espoir quelque part que la mobilisation et l'implication dans la mobilisation de la jeunesse telle qu'elle s'était transformée à cette époque aurait des répercussions sur le reste de la société sans savoir comment. Et donc d'aller le plus loin possible dans la confrontation et dans l'auto-organisation des jeunes, c'était une orientation qui était assumée. Dans la nuit des barricades, on ne savait pas trop où on allait, mais on essayait d'aller le plus loin possible dans la confrontation avec ce qui était l'appareil répressif, mais aussi pour la récupération du droit d'expression et d'organisation à l'intérieur des universités. Et d'universités ouvertes aussi aux luttes ouvrières, et il y en avait avant 68 qui avaient commencé et qui étaient très importantes. Alors quand il y a eu la grande manifestation et la grève générale, c'était pour nous, c'est-à-dire, je m'inclus là dans la frange la plus radicalisée, la plus politisée, notamment de la 4e internationale et des JCR, c'est-à-dire qui percevaient ce qui était en train de se passer en France comme quelque chose qui avait à voir avec un processus révolutionnaire, sans que les conditions d'une révolution soient réalisées, mais un processus révolutionnaire dont on ne savait pas jusqu'où il pourrait aller, mais qui n'était pas seulement français, qui était international et qui n'était sûrement pas seulement étudiant. Donc la jonction avec les travailleurs était quelque chose d'absolument essentiel et donnait tout son sens en réalité politique à la mobilisation, à la signification de ce qu'était mai 68, contrairement aux présentations superficielles qui en font simplement une révolte étudiante. Donc il y avait une crise de société, et dans les mobilisations ouvrières, ce qui était également notre éclairage, notre perception, notre dialogue avec les militants ouvriers illustrait l'idée qu'on était dans un processus qui allait bien plus loin qu'une séquence revendicative. Il y avait bien évidemment tout à fait une légitimité des revendications d'augmentation salariale, des conditions de travail, contre la précarité, les statuts, et notamment pour les OS, immigrés, etc. Donc il y avait des revendications salariales et évidemment légitimes. Mais comme des films l'ont montré, hein, sur la grève et l'arrêt de la grève, et la façon dont les ouvriers sont entrés en grève, y compris parfois sans savoir sur quoi ils allaient se mobiliser, mais il y avait quelque chose qui relevait de l'esprit de 68 et qui était une contestation sociétale, une contestation de la société. Alors, il serait indigne de parler d'une société de consommation pour les travailleurs, où mai 68 et Grenelle a été plutôt un rattrapage des salaires. C'est-à-dire, ils n'avaient pas du tout bénéficié des gains de productivité et de la croissance, hein. Donc on était très très loin d'une saturation des besoins de base. C'est dans cette phase-là que, y compris l'accès à des biens de consommation de masse va s'accélérer dans les milieux populaires. Mais les aspirations allaient bien au-delà. Alors, le film de Charlie Chaplin sur les temps modernes, hein, le travail à la chaîne, le travail aux pièces, illustrait bien ce qu'était l'aliénation du travail, de la robotisation sur les chaînes de montage. Et évidemment, il y avait des catégories différentes de travailleurs selon la qualification et selon le poste qu'on occupait. Mais de façon globale, quelles que soient ces qualifications, il y avait bel et bien une question, je dirais, de dignité. C'est un mot qui était présent aussi dans la Révolution d'octobre, dans les cahiers de doléances. C'est un mot qui sera présent dans les révolutions récentes et les soulèvements du monde arabe récent. Mais c'est un mot qui était aussi très significatif de ce qui se passait dans les soulèvements de mai 68, avec quelque chose qui marquait une période révolutionnaire où l'impossible devient crédible et où la conscience politique se radicalise brutalement en espérant véritablement quelque chose qui relève d'un changement de statut social dans lequel il y a une combinaison d'autonomie individuelle, de liberté individuelle et très collective. Alors, en ce qui concerne ma politisation, c'est dans cette phase-là, beaucoup plus encore qu'avant, j'ai ressenti le besoin vital d'une organisation politique à l'échelle nationale et internationale pour comprendre ce qui se passait et pour agir dans ce qui se passait. Ça ne veut pas dire une vision avant-gardiste où on allait donner des leçons pour dire ce qu'il fallait faire, mais comprendre ce qu'il se passait et inscrire dans ce qui se passait nos propres aspirations qui tiraient les leçons, y compris de la dégénérescence bureaucratique. On avait dans les milieux politiques donc, où j'étais éduquée, de la 4e internationale, commencé à travailler sur l'échec de la Révolution d'octobre. On était éduqués à lire Rosa Luxembourg et ses critiques, y compris de ce qu'avait été la politique des bolcheviques, tout en soutenant de façon radicale la Révolution d octobre et les bolcheviques dans un processus de révolution mondiale. On était évidemment radicalisé aussi par ce qui s'était passé dans la tricontinentale et les appels de Che Guevara à créer un, deux, trois Vietnam. C'est tout ça en même temps que je ressentais personnellement, qui était ressenti, je dirais, de façon plus large, même dans la JCR. C'est d'ailleurs dans cette phase des années 68 que la question de transformation de cette organisation de jeunes en une organisation pleinement politique, adulte donc, même si elle était implantée massivement dans la jeunesse, se posait, et que se posait sa transformation en section de l'international. Et ceci non pas parce que l'international, telle qu'elle était, nous donnait la réponse et était la réponse adéquate à l'ampleur de ce qui se passait. On était beaucoup trop petits, beaucoup trop faibles, et malheureusement confrontés à des attaques sur tous les fronts, à la fois des forces dominantes avec la répression politique de toutes les mobilisations révolutionnaires dans le monde et de tous les dirigeants des luttes coloniales et anticapitalistes aussi. Donc la corruption des mouvements dès qu'ils gagnaient en importance, mais aussi la confrontation avec le stalinisme et avec les organisations dominantes du mouvement ouvrier. Donc on était trop petits. Donc ce n'était pas la prétention de pouvoir répondre tout seul à la question, mais d'essayer de construire quelque chose qui essayait de fédérer, notamment des courants qui venaient du Parti Socialiste Unifié ou qui venaient d'une radicalisation qui n'était pas, qui ne se revendiquait pas du trotskisme ou de l'opposition de gauche. Donc déjà, on commençait à penser ce problème-là. Et dans la 4e internationale, c'était un cadre pluraliste qui était ouvert à la fois donc, à ce retour critique et autocritique sur le mouvement ouvrier et sa bureaucratisation, d'une part, qui était ouvert aux nouveaux mouvements qui dans le monde s'était développé après l'assassinat de Trotsky, donc à la fois les nouvelles révolutions du XXe siècle, de la révolution yougoslave à la révolution chinoise à la révolution cubaine ou vietnamienne, même si elles n'étaient pas entre guillemets pures, même si elles étaient dirigées par des partis communistes, même si elles avaient des dimensions bureaucratiques. Elles étaient des révolutions et il fallait se lier à elles. On essayait de le faire partout. Et notamment, je disais que je commençais à travailler sur les pays d'Europe de l'Est. Je commençais à travailler notamment sur l'expérience yougoslave autogestionnaire. Donc dans ma politisation et mon implication dans ce que je vivais par la tête, le cœur et les tripes comme un processus révolutionnaire mondial. J'étais branchée en particulier, en dehors de l'implication sur la question du Vietnam et l'attrait de Che Guevara, mais j'étais branchée particulièrement sur ce qui se passait en Europe de l'Est. Or, en Pologne, d'abord, on était en contact depuis 2 ans, avec notamment les Couronne et Modzelewski qui avaient publié une lettre ouverte au parti, l'équivalent du parti communiste polonais, le parti ouvrier unifié polonais. Et on avait reproduit au niveau de la 4e internation, de façon dactylographiée puis en brochure, leur lettre ouverte qui était une contestation marxiste des rapports de domination à l'intérieur de leur société. Et en 68, avant, en mai 68, en mars, il y avait eu donc en Pologne des mouvements de jeunes qui relevaient de cette radicalisation jeune qui se passait à l'échelle mondiale contre tous les rapports de domination et notamment bureaucratiques, mais qui relevaient aussi dans l'histoire particulière de la Pologne d'un héritage, celui des conseils ouvriers de 1956 en Pologne et en Hongrie, qui en Hongrie avait été écrasé par les tanks soviétiques, mais en Pologne qui avait été canalisé et qui avait légué en milieu universitaire une certaine autonomie autogestionnaire qui était en train d'être remise en cause par les appareils bureaucratiques du parti dirigeant. Et donc la mobilisation jeune polonaise de 68 était contre la censure et était pour protéger ce statut autogestionnaire universitaire et s'engouffrait aussi derrière ce qu'avaient écrit Couronne et Modzelewski dans leur lettre ouverte. Et ils étaient considérés et dénoncés, entre guillemets, par les appareils bureaucratiques comme étant les responsables de la radicalisation étudiante et juifs. Donc il y avait toute une dimension de répression antisémite. Et ça a brisé la dynamique politique en Pologne et les liens potentiels avec des mobilisations ouvrières qui surgiront plus tard, dans les années 70, puis avec Solidarność. Alors, en 68, c'est en Tchécoslovaquie des éléments, au contraire, mais complexes de jonction entre la mobilisation de la jeunesse et la classe ouvrière va s'opérer. Mais souvent, on occulte ça, parce que les réformes qui étaient à l'origine de ce qui va faire le printemps de Prague, celles initiées par l'aile technocratique en quelque sorte, Dubček en Tchécoslovaquie, appuyée par des économistes, prônaient contre les réformes bureaucratiques de la planification, que je commençais moi-même à travailler dans mon travail universitaire, prônait des réformes de marché qui s'appuyaient sur les directeurs d'entreprise et non pas du tout une logique de transformation, de conseil ouvrier, d'autogestion. Ce qu'on sait en général pas, c'est qu'à l'intérieur du Parti communiste tchécoslovaque, il existait une aile autogestionnaire qui était très passionnée, intéressée par ce qui se passait dans la Yougoslavie voisine, même si ça n'était pas un modèle, il y avait des tas de conflits. Et également donc un problème d'utilisation problématique du marché dans un projet socialiste, mais qui s'appuyait sur l'idée que la contestation de la réforme bureaucratique de l'Union soviétique devait se faire en s'appuyant sur le développement des droits de propriété sociale appuyés par les conseils ouvriers dans les entreprises. Et donc, en ce qui concerne la Tchécoslovaquie notamment, donc, Ce qui était important, c'est qu'existait à l'intérieur du Parti communiste tchécoslovaque, et ça on le sait en général pas, un courant autogestionnaire, notamment impulsé par Yaroslav Chabata, membre du Parti communiste, qui était à la fois contre la planification soviétique bureaucratique et contre les réformes technocratiques qui s'appuyaient sur les directeurs d'entreprise et le développement des rapports marchands et non pas vers les ouvriers. Mais dans un premier temps, et au moment du printemps de Prague, les dirigeants réformateurs essayer de contrer une certaine passivité de la classe ouvrière qui était réticente vis-à-vis justement de ces réformes technocratiques parce que les ouvriers ressentaient ces réformes comme des menaces sur leur emploi et des menaces aussi sur des logiques égalitaires dans l'accès aux biens de consommation. Et donc c'est pour contrer cette passivité voire hostilité que l'ouverture du printemps de Prague s'est faite, c'est-à-dire contre la censure, et que s'est engouffré dedans un mouvement de jeunes beaucoup plus radical, et notamment le travail de l'impulsion par un camarade qu'on connaissait à l'époque, donc Pet Rule, l'impulsion d'un mouvement autonome de la jeunesse, socialiste, qui se revendiquait de ce qu'il a appelé ensuite dans son livre « Le socialisme sans prison », donc contre le socialisme emprisonné, avec des dimensions autogestionnaires. Et au même moment, dans la Yougoslavie voisine, ce qui était encore moins connu, il y avait en juin occupation des universités et montée de grèves dans toute la société contre l'effet de ce qu'on appelait le marché socialiste, c'est-à-dire en Yougoslavie depuis 1965, donc jusqu'à la fin des années 60, une phase des réformes économiques qui, d'un côté, augmentait le droit de gestion des ouvriers à l'intérieur des entreprises, mais en même temps mettait les entreprises et donc les ouvriers en concurrence par un marché qui était étendue avec la suppression de la planification et le rôle des banques. Donc on avait une situation de polarisation à l'intérieur de laquelle un mouvement de gauche marxiste, universitaire et de chercheurs derrière la revue Praxis, organisait depuis 1965, toutes les années, dans l'île de Korčula, des rencontres internationales auxquelles participaient tous les grands penseurs de la gauche non communiste, non officielle, et y compris de la 4e internationale, Ernest Mandel, Tariq Ali, Livio Maitan, avec une réflexion sur le système autogestionnaire qui était à la fois favorable à l'autogestion des ouvriers mais contre les réformes de marché. Et il y avait un mouvement de jeunes exceptionnel, alors que la révolution culturelle était une instrumentalisation des jeunes par un appareil du parti. En Yougoslavie, il s'est développé donc en juin 68 un mouvement autonome socialiste de jeunes occupant les universités, se revendiquant d'une autogestion de bas en haut contre la bourgeoisie rouge qui commençait à réaliser des formes d'accumulation capitaliste dans les marges des réformes de marché, et qui en même temps, et ça c'est assez exceptionnel dans les pays se revendiquant du socialisme, était extrêmement ouverte, parce que la Yougoslavie l'était, sur les mouvements de radicalisation dans le monde. Il y avait dans les universités occupées les posters de Che Guevara. On y trouvait, traduits en serbo-croate ou croato-serbe, les textes d'Ernest Mandel ou de Trotsky. On y trouvait les brochures rouges de la JCR produites par Maspero. Et il y avait effectivement un mouvement qui revendiquait en même temps quelque chose qui est pour aujourd'hui encore précisément une alternative aux impasses de l'époque, c'est-à-dire qui s'efforçait de trouver un système autogestionnaire basé sur une planification autogestionnaire et des communautés d'intérêt autogestionnaire qui permettait de surmonter le compartimentage et la mise en concurrence. Bon, donc tout ceci, je ne peux pas le développer, mais c'était quelque chose qui se radicalisait et qui survenait en même temps que le printemps de Prague. Et donc, il va se passer évidemment une bifurcation majeure avec l'intervention des troupes soviétiques. L'été 68 du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. Mais cette bifurcation, elle est d'abord en Tchécoslovaquie même. En Tchécoslovaquie même, c'est précisément sous l'occupation donc de l'été 68 que vont surgir et proliférer pendant plus d'un an, jusqu'en 69, les conseils ouvriers, impulsés, soutenus par l'aile autogestionnaire dont je parlais tout à l'heure, notamment Yaroslav Shabata, et par le syndicat officiel, y compris, qui va soutenir ce mouvement qui va se développer, des courants anarchistes, et Vladimir Fichera, notamment, et Jean-Pierre Fay vont produire un livre sur les conseils ouvriers, l'automne de Prague, qui est tout à fait précieux. C'est une phase 68-69 qui est en général pas connue. Et en Yougoslavie, l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie va provoquer également un tournant, c'est-à-dire Tito va condamner, de même que l'Albanie voisine, l'intervention soviétique. Mais il va utiliser la menace soviétique comme étant une menace risque de se tourner aussi contre la Yougoslavie. Et il va s'emparer de cela pour impulser en Yougoslavie une mobilisation, y compris armée, contre une menace possible d'intervention soviétique, avec la création d'une défense armée populaire, mais ce faisant, il en exclut tous les dissidents, c'est-à-dire tous les contestataires de la gauche radicale. Donc à la fois, il va y avoir le paternalisme de Tito qui va dire à ces jeunes: vous êtes des bons socialistes, vous avez raison de dénoncer les inégalités produites par la réforme de marché. Et il va y avoir un tournant dans les années 70 officiel mettant un arrêt aux réformes de marché, introduisant des éléments revendiqués par la gauche, mais en même temps, tous les éléments contestataires vont être écartés et réprimés à la façon de Tito. Donc l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie va être un tournant majeur aussi en Yougoslavie. Donc en fait, dans ce qu'on pourrait appeler les années 68 dans le monde, au sens large, c'est-à-dire qui commence un peu avant et qui se poursuivent après avec des scénarios différents, il y a un moment clé, y compris ma propre politisation et notre politisation internationale, c'est la convocation, la réunion de la conférence internationale dite tricontinentale en 66 à La Havane, avec l'assassinat de Ben Barka, le leader marocain, probablement par les services français à cette époque-là, qui s'inscrit d'ailleurs dans une série d'assassinats qui concernent beaucoup de militants d'Afrique, la répression aussi des soulèvements de l'Indonésie en 65, mais Lumumba, Ben Barka, mais ensuite les militants noirs aussi aux États-Unis. Et la tricontinentale qui se réunit donc à La Havane était présentée par Ben Barka comme la conjonction des deux grands mouvements révolutionnaires et subversifs de l'ordre mondial de ces années-là, celui qui prenait racine dans Octobre et celui qui prenait racine dans la foulée d'Octobre et de la révolution chinoise, dans la résistance contre le colonialisme et l'impérialisme, c'est-à-dire le mouvement de la révolution anticolonialiste. Et il y avait donc à Cuba, alors à la fois un affaiblissement considérable de cette convergence par la crise sino-soviétique, par les conflits, y compris qui avaient poussé d'ailleurs les dirigeants communistes yougoslaves à s'inscrire dans le mouvement des non-alignés pour essayer de résister sur plusieurs fronts, à la fois à la domination soviétique et à la domination américaine, mais ça ne donnait pas une cohérence. Donc il y avait un vrai problème, une vraie faiblesse dans ces années 66-68, mais en même temps quelque chose qui mûrissait et qui se cristallisait avec le mot d'ordre dans la tricontinentale de soutien concret sur la question du Vietnam pour une victoire. Donc c'était une défaite de l'impérialisme qui devait se condenser autour du Vietnam. Alors Le Che soulignera ça avec ces deux, trois, un, deux, trois Vietnam. Mais donc on a une phase dans laquelle on a à la fois donc, cette dialectique de la révolution mondiale, la montée d'une contestation qui n'est plus campiste, c'est-à-dire qui n'accepte pas l'idée d'un monde bipolaire où il faudrait s'aligner soit sur l'Union soviétique, soit sur les États-Unis, c'est-à-dire de l'intérieur même du monde socialiste, il y a contestation, mais d'un point de vue socialiste, du point de vue des conseils ouvriers, du point de vue des idéaux ou du communisme, de ce qu'est le socialisme réel, avec l'espoir d'un socialisme à visage humain, mais le développement aussi de conseils ouvriers et de revendications autogestionnaires. Bon, alors elles vont être réprimées, mais c'est quelque chose qui existe et qui est très important. En même temps, une crise capitaliste dans les pays du centre, qui est une crise de profit, mais en même temps une crise de l'ordre mondial capitaliste et impérialiste, et qui est aussi une crise de société dans laquelle va commencer à s'engouffrer ce qui n'est qu'embryonnaire encore en 68, le mouvement des femmes qui va se développer après, le mouvement de contestation sur les questions de la sexualité, l'homosexualité, etc. Mais surtout aussi un mouvement de remise en cause des rapports de domination impérialiste et colonialiste, avec cette cristallisation de la tricontinentale qui va faire l'objet d'une répression massive, massive à la fois par la corruption, par les assassinats, par les coups d'État. Alors ça va pas être un coup d'arrêt immédiat. Le Chili d'Allende est encore dans ce contexte d'une montée de la révolution mondiale et dans une dynamique socialiste. Le Portugal de la révolution des œillets en 1974 aussi. La façon dont ça va se terminer des deux côtés montre aussi comment les dirigeants de l'ordre mondial procèdent de façon différente. Dans les pays dits du tiers-monde et de la semi-périphérie, c'est le coup d'État, c'est Pinochet. Pour le Portugal, ça va être une canalisation et une canalisation dans la construction européenne avec des fonds qui vont être ouverts dans le basculement de la communauté économique européenne vers l'Union européenne et dans le basculement néolibéral des années 70, des fonds pour pouvoir intégrer les pays qui sortaient de dictature en Grèce, au Portugal ou en Espagne. Donc on va essayer d'empêcher qu'il y ait une dynamique de sortie de la dictature vers le socialisme par un quasi-plan Marshall et par des politiques de corruption et de canalisation, disons, réformistes. Bon. Et dans les pays d'Europe de l'Est, ce sont les partis au pouvoir qui commenceront le sale boulot de la canalisation et de l'étouffement de ce qu'il y avait de plus subversif dans les années 68 et qui vont favoriser ensuite la phase de restauration capitaliste des années 80. Donc pour moi, en 68, il y a eu chevauchement de plusieurs fils de radicalisation, de politisation, je veux dire, dans la 4e internationale, au plan étudiant, dans les mobilisations sur le Vietnam, et en même temps au plan personnel. C'est dans cette phase-là que celui que j'avais connu et qui m'a parrainé dans le recrutement à la 4e internationale, Hubert Krivine, est entré dans ma vie amoureuse, et il est resté depuis 50 ans.